Prendrez vos livres de 20 000 bars au début de du livre d'ailleurs. C'est bien la paracha de 20 000 bars que nous avons. Et alors, vous avez dû remarquer qu'avec 20 000 bars commencent plusieurs chapitres de dénombrement. Et nous est annoncé déjà dans notre paracha une différence qu'il y aura entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Alors c'est surtout à partir de la paracha de Nassau et de Baalotecha que nous verrons ce problème de la différence entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Mais déjà à la fin de la paracha de Bamidbar, ça nous est indiqué. Un dénombrement est demandé, mais il va concerner les 12 tribus d'Israël et pas encore la tribu de Lévi, qui sera dénombrée à part. Et donc, je le répète, on étudiera la différence de vocation de la tribu de Lévi et des autres tribus d'Israël quand on arrivera à ce stade-là. Vous m'excusez si j'ai encore des problèmes d'élocution. Vous arrivez quand même à m'entendre ? Tout juste, comme d'habitude. Oui, je vous demanderai de ne pas avoir les jambes croisées pendant l'étude. C'est aussi pour vous que je dis ça, madame. Voilà. Alors je reviens au sujet. On va lire les premiers versets, puis je vais essayer surtout d'étudier, non pas le dénombrement lui-même, les nombres, les chiffres du dénombrement sont importants, mais enfin ce serait une toute autre étude. Simplement je mets en évidence le caractère apparemment, ou qui risque d'être apparemment fastidieux d'un tel dénombrement dans le détail. Je suppose que vous avez dû déjà un peu lire ces textes, enfin, vous en avez un peu connaissance. Alors on risque d'avoir l'impression de se demander pourquoi la Torah nous donne tellement de détails. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion, on vous a distribué une page, de suivre une des drachot qui ont été données à ce sujet par le Rav Gedolei Zahav. Je vous rappellerai d'ailleurs qui est ce Rav Gedolei Zahav. Cela a été, je crois, une fois, mais il y a peut-être 2-3 ans, je vous en avais parlé, mais rappelez-moi, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un Rav peu connu dans notre génération. C'est un Rav de la génération précédente en Roumanie et qui était extrêmement important dans le mouvement des sionistes religieux. Je vérifie si c'est bien la Roumanie parce qu'il y a tellement de pays nouveaux et anciens en Europe que je ne sais plus où ça se trouve. Roumanie, oui. La Transylvanie, c'était bien la Roumanie. Hein. Et en particulier, il y a l'indication que chaque individu en Israël a une identité qui a sa dignité propre, irremplaçable. D'ailleurs, c'est vrai pour chaque créature. Mais en particulier pour Israël, nous verrons cela avec une des rachats. Pourquoi la Torah a tenu à nous donner tous ces noms-là et toutes ces numérations de noms, si j'ose dire. Le fait de mettre en évidence que chaque personne a une valeur irremplaçable. Il y a des adjectifs qui me manquent, mais c'est pas grave, ça va revenir. Comprenez l'idée. Il y a dans la civilisation humaine un grave problème. C'est que l'humanité, c'est une espèce vivante comme les autres espèces vivantes, mais il y a une caractéristique différente, c'est que chaque individu de l'espèce humaine devrait être une personne. Vous voyez, en français, on ne prête pas trop souvent attention au fait que ce n'est pas synonyme, un individu et une personne. Et je vous dis souvent, et je le répète encore, le français est une langue tellement nuancée que c'est très difficile de l'utiliser si on veut traduire de façon précise l'intention des textes de la Torah. Alors, par exemple, pour ce problème, prendre individu ou personne comme synonyme, c'est une très grave erreur. Alors, je vais très rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps pour des questions de sémantique, essayer de situer cette question par rapport à notre sujet. Un dénombrement, ça consiste à mettre en évidence un nombre. Mais la Torah demande tout de suite que ce soit un nombre des noms. Vous allez prendre l'expression qui se trouve au verset 2. Je reviendrai ensuite sur la lecture des versets. C'est où est Troshkol Adad Ben Israël. Pour le moment, j'ai traduit dénombrer l'assemblée de tous les enfants d'Israël. Non, j'ai mal traduit. dénombrer toute l'assemblée des enfants d'Israël. J'ai traduit provisoirement « c'est ou étrange » par « dénombrer ». Il me faudra un quart d'heure tout à l'heure pour traduire. Mais comme c'est la traduction habituelle des traducteurs, je vous indique que c'est provisoire. Il faut comprendre le texte hébreu en hébreu. Pourquoi la Torah emploie cette expression « c'est ou étrange » pour dire « dénombrer » Je n'ai pas traduit, hein, mais j'y reviendrai. Les Mishperotam, selon leur famille, les Betavotam, selon leur maison paternelle, est-ce qu'il n'y aurait pas ici aussi un synonyme, comment on dit, pléonasme? Est-ce que la famille, la maison paternelle, c'est pas la même chose? Pourquoi la Torah nous demande de préciser les Mishperotam, les Betavotam? Vous avez compris la différence, hein? Non, on n'a pas encore compris, on n'a pas étudié, mais vous avez compris le sujet, la question. Bemispar Shemot, voilà l'expression à laquelle je voulais arriver. Par le nombre des noms. Et on est tellement familier à des clauses de style, en particulier de style biblique, qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal de parler comme ça. Il y a le nombre et il y a le nom. Dans le nombre, un groupe, c'est un groupe d'individus équivalents. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 0 d'ailleurs, tout ça, mais en fait, ce n'est pas grave. 1 plus 1 plus 1 plus 1, des individus. Ça fait un nombre. Mais des noms, chacun a un nom spécifique. Et bien entendu, il faut tout de suite découvrir et le retenir que la nomination, d'après la tradition, et d'après la Torah surtout, c'est pas conventionnel. La modernité, depuis longtemps, a perdu la science des noms. Et on nomme n'importe quoi, n'importe comment, avec des critères de folklore, de civilisation, qui n'ont rien à voir avec le fait de nommer quelqu'un. J'ai souvent parlé, de ce problème, mais donner un nom à quelqu'un, c'est pas lui coller une étiquette, qui sera un signe par lequel on le reconnaîtra dans une carte d'identité perforée ou pas perforée, d'ailleurs. Mais donner un nom à quelqu'un, c'est de lui donner une identité, et pas dans le sens de l'état civil, un projet d'identité, un profil d'identité. Tu seras celui-là. On ne sait plus ce que veulent dire les noms, et alors, encore une fois, ce ne sont plus que des signes d'état civil par lesquels on se reconnaît, plus ou moins, d'ailleurs. Connaître quelqu'un par son nom, c'est une expression biblique, ça ne veut pas du tout dire savoir quel nom il porte à l'état civil. Est-ce que c'est clair le problème, Ken? Je n'aurai pas le temps d'expliquer aussi cette expression, connaître quelqu'un par son nom. Qu'est-ce qu'on connaît en quelqu'un lorsqu'on connaît son nom? On peut connaître quelqu'un par son visage, on peut connaître quelqu'un par sa silhouette, on peut connaître quelqu'un par son métier. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un par son nom? Je ne sais pas si nous avons étudié ça une fois. Est-ce que nous avons étudié ça une fois ici dans ce cours? Non? Oui, non? Non. Bon. Non, avec N-O-M ou N-O-N? Eh bien, je vous dirai la réponse, parce que je ne vais pas prendre trop de temps pour l'analyser. C'est connaître la façon qu'il a de vouloir ce qu'il veut quand il veut quelque chose. Connaître son type de volonté. Pas seulement son caractère en général. Mais c'est aussi une science qui s'est perdue, la science des caractères. On a une science abstraite, vous avez lu, qui c'est la Bruyère, une science abstraite de type littéraire, de caractère psychologique, hein. Mais en fait, chaque individu a un profil d'identité, un caractère qui est bien le sien et n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et donc, le caractère, c'est un faisceau d'indications. Une de ces indications, la plus fondamentale pour la connaissance de quelqu'un, c'est l'attitude de sa volonté. Comment il préfère vouloir quand il veut? Comment il a l'habitude de vouloir? C'est cela, en hébreu, ce qui signifie connaître quelqu'un par son nom. Vous voyez qu'on ne pourrait pas le deviner si on ne le savait pas. Et je vous donne une série d'expressions traditionnelles pour vous montrer l'importance du problème. On dit que l'honneur de quelqu'un, c'est sa volonté. Comment dit-on en hébreu, pour ceux qui savent? Kvodo shel adam retsono. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Retsono shel adam, kvodo. J'ai bien fait de demander. C'est la volonté de quelqu'un qui est son honneur. Honorer quelqu'un, c'est acquiescer à sa façon de vouloir. Et si, effectivement, on honorait les gens, il n'y aurait pas de marloquette, il n'y aurait pas de divorce. Parce que si le mari honorait sa femme et la femme honorait son mari, dans le sens, dans ce sens rabbinique traditionnel, ça veut dire accepter que sa manière de vouloir la même chose que je veux, mais moi je le veux autrement, c'est tout aussi valable. Il n'y aurait pas de machloket. Je ne sais pas si c'est clair. Et puis je vous donne un autre verset sans l'étudier. C'est-à-dire deux volontés veulent le même but, mais par des manières de vouloir différentes. Et toutes les querelles de juste, c'est les pires, hein, parce qu'elles n'ont pas de fin, les querelles de juste. Et les querelles de gangsters, ça se finit au tribunal, sinon il y a des tuiles qui tombent de toi. Vous avez compris ce que je veux dire, hein. Mais c'est pas un gars. Vous savez que c'est un toit en hébreu. Un gars. Bon, mais c'est pas un gars. Alors, il y a une justice qu'il faut rendre dans les tribunaux. Si les tribunaux ne font pas leur métier, alors il y a une justice immanente. La justice immanente, c'est terrible. Ça veut dire que c'est pas arrivé au tribunal, il y a un règlement de compte qui vient d'en haut. Et alors les tuiles tombent des toits. Pourquoi c'est grave? Parce que des fois, il y a quelqu'un en dessous. C'est tout simplement. Alors on se demande, mais pourquoi? Et puis, si on fait une analyse qu'on est incapable de faire, il faut avoir la science totale du quelqu'un dont on parle. Alors, on arrive de fil en aiguille à savoir que finalement, et chacun est jugé au niveau d'importance qu'il a. Des gens inférieurs, on les juge grosso modo, mais des gens qui se croient supérieurs sont jugés, comme on dit le Talmud, Kechut, ça veut dire sur un cheveu. Alors, surtout ceux qui coupent les cheveux en quatre, ceux-là, ils sont sûrs d'être jugés quatre fois. En tout cas, pour revenir au sujet, vous avez un verset comme Baruch Shem Kevod Malchuto Lerolamai. Vous voyez comment le nom et l'honneur est lié. Je traduis pas, hein, parce que ça va nous faire une demi-heure. C'est pour ceux qui entendent les versets. Et c'est-à-dire connaître quelqu'un par son nom, c'est très important. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra savoir comment se comporter avec lui dans le cas d'avoir à lui faire honneur. Il y a dans la société juive quelque chose qui manque avec les siècles, parce que ça existait dans les Dorot Ketikunam, comment on traduit ça, lorsque les générations étaient. Alors, vous ne savez plus traduire, hein? Dorot Ketikunam. En ordre, oui, comme il faut. Hein? Aujourd'hui, nous sommes comme le tiercé, en désordre. Mais parce que ça porte sur trois générations toujours, le grand-père, le père et le fils. Et des fois, il y a le. Quand c'est quatre, comment dire en français? Quatercé? Non, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a un machin. Bon, perdons pas de temps. Ça me rappelle une anecdote qu'il faut que je vous raconte. Un jour, il y a des années, j'étais invité par une synagogue de la banlieue parisienne de parler d'Eretz Israël. Vous savez où c'est? Et alors, provisoirement, ok. Et alors, à la fin de la sikha, il y a un brave juif qui se lève et qui me dit, mais dans votre pays, est-ce qu'il y a le tiercé? Sinon, je ne viens pas. Authentique. Authentique. Non, je vous garantis, c'est vrai. Je suis resté stupéfait. Je dis, si vous venez pour ça, on ne vous accepte pas. Bon. Alors, je reviens au problème. De quoi je parlais avant? Oui, voyez, prenez cette équivalence que le Shla a donné, le Ratzon, la volonté, ça pour valeur numérique en hébreu, le mot de Shmo, son nom. Shmo, Ratzon. Ratzon, comptez voir si c'est exact, parce que j'ai pensé au tiercé. Ratzon, ça fait combien? Alors, faites pas des mathématiques sacrées, là.
Oui, c'est ça,
346. C'est ça, 346. Ça y est, c'est 346. Alors, Dieu révèle sa volonté par la Torah. Et la Torah est appelée le nom de Dieu. Quand quelqu'un révèle sa volonté, il révèle son nom. Et vous voyez, la connaissance des personnes manque de cela. On ne se connaît pas vraiment. Si on se connaissait vraiment, alors tous les problèmes de communication et surtout de coexistence seraient résolus. On n'a que des connaissances conventionnelles. Il faut dire que c'est très difficile dans le temps moderne. Les gens sont sur la défensive et s'enveloppent d'une carapace d'opacité hermétique. Et je pense que c'est clair. J'ai un peu d'expérience de ce qu'on appelle la communication, les conversations. 90% des conversations sont vraiment les gens qui sont intimes, qui s'aiment vraiment. C'est du bavardage, on fait du bruit pour ne rien dire. Mais intentionnellement, parce qu'on ne veut pas parler, alors on bavarde. Est-ce que c'est clair, ça? Parce qu'on a peur. On a peur, si je parle, je vais me découvrir, etc., etc. Et c'est clair, vous diagnostiquez, je ne sais pas pour qui je dis ça, mais c'est sûrement pour quelqu'un, pas là-haut. Et ça vous ajoutera une harmonique de sens à une mishra qui est importante. Vel tarbe sicha et maisha. Je reprends juste le pshat. C'est pas que c'est interdit de parler aux femmes. Ça, c'est chez les orthos. Non. Non, je pensais à une gemara, il faudrait que je vous trouve la référence, je crois que c'est dans Vitine, page 7, mais il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Il y a 7 sortes de pharisiens. Et il y a une sorte de pharisien qui s'appelle le pharisien au front bombé. Qu'est-ce que c'est les pharisiens au front bombé? C'est des gens qui marchent les yeux penchés sur le front penché sur la terre, quand il y avait un chancelout comme ça. Tu te rappelles de ça? Le front penché sur la terre. Et là, il marche avec un air pieux. Et puis, pour ne pas voir les femmes. Alors, il rentre dans le mur. Des bosses sur les fronts. Bon. Altarbe sicha et maïcha. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que c'est interdit de parler aux femmes. D'autant plus que la Mishnah dit Beishto amru. On a parlé de sa propre femme. Kalva homer beishet ravero. C'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne parle pas à sa femme? Et c'est parce qu'on ne parle pas à sa femme qu'on ne parle pas aux autres. Le raisonnement n'est pas simple. Hein? Il faudrait que je vous explique cette Mishnah, puisque j'ai parlé. Vous avez rencontré cette Mishnah une fois? Bon. Alors donnez-moi le début. C'est Yosef Ben Yoézer Ishereda Oulai. Qui a donné? Non, je veux savoir, qui a donné la Mishnah? Entre trouvez-moi les jeux virgués à votre. Bon, Eve. Mais je veux savoir qui a dit ça. Et après, je vous expliquerai rapidement. Tu prends un sidour ashkenaz, c'est dans Mincha de Shabbat. Il n'y a pas de sidour ashkenaz. Qu'est-ce que c'est cette synagogue? T'as trouvé? Il a fait. C'est au début, premier chapitre. Hein? Attends, t'es là.
Sans la loupe, ça marche.
Non, je vais voir. Il me suffit de voir le nom, sinon je prends la loupe. Non, c'est Yosef Ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Yosef Ben Yoézer, c'est la Mishnah d'avant. Alors, Yosef Ben Yochanan, Ish Yerushalayim, qui dit Yehi betecha patoach ravachai, dans trois consignes, que ta maison soit grande ouverte pour l'hospitalité, veyu aniim ben betecha, et que les pauvres soient comme les enfants de ta maison. C'est moi qui ai ajouté comme j'aurais pas dû. Et que les pauvres soient les enfants de ta maison. Ça veut dire quand tu accueilles un ami, que ta maison soit grande ouverte, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je vous donnais d'obstacle à l'inviter. Je vous donne un exemple comme le Midrash, c'est la tente qu'avait plantée Abraham qui s'appelait Eshel. C'est passé dans le langage israélien, à la sortie, on connaît bien ça, dans toutes les administrations. Et Eshel, c'est Achila, Shtia, Lina. J'allais dire les orthos traduisent Achila, Shtia, Limoud. Ils étudient la nuit. Mais le Midrash explique que sa tente était ouverte aux quatre côtés. De telle sorte que si un passant passait par un autre côté, qu'il n'ait pas à contourner pour rentrer demander l'hospitalité. Parce que très souvent, demander l'hospitalité, il y a un obstacle de pudeur. Et très souvent, le petit effort, le plus petit effort qu'il faut faire, pour bousculer cette place de pudeur, ça fait obstacle. Je ne sais pas si c'est clair, Céline. Donc, si ta maison est ouverte, qu'elle soit grande ouverte. Quand on invite quelqu'un, c'est pas « tu peux venir si tu veux ». Tu sais, viens. Et puis, quand on donne l'hospitalité aux pauvres, ou si on héberge quelqu'un qui est pauvre, il faut le considérer comme un fils de la famille. Voilà la vraie hospitalité. Et pour les riches et pour les pauvres. Et puis troisièmement, Valtarbe Sikha et Maïcha, ne multiplie pas la conversation avec la femme. Et là, c'est un cas particulier dans ces Mishnayot de Pirkei Avot. Il y a une explication. Beishto Amru, on a enseigné ça à propos de sa propre femme. Kalvachomer Veshitraveo, à plus forte raison, la femme de son ami. Vous savez, il y a des gens qui ont un verset dans la Bible. Tu aimeras la femme de ton prochain comme toi-même. C'est très courant. Et vous rigolez, ça arrive. Ça arrive. Toujours. Et alors, il y a une amplification encore de l'enseignement. Et à partir de là, on apprend que celui qui multiplie la conversation avec la femme finira par tomber dans l'enfer. Bon, qu'est-ce que c'est cette hypertrophie de... Alors, il faut commencer d'abord à comprendre ce que dit la Mishnah. Altarbe sifarimaïsh. Je vais vous donner une première explication. Et ensuite, je vous expliquerai là un peu plus profond, mais vous allez me rappeler pourquoi je vais citer ça. Pourquoi je vais citer cette Mishnah. Hein? Très bien. Exact. Surtout entre mari et femme. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Altarbe sifarimaïsh. Ne multiplie pas la conversation avec une femme. Si on parle à une femme, et qu'il faut beaucoup de parlotte, il n'y aura pas d'issue. C'est multiplier qui est le signe que ça ne va pas. Altarbé, quand on parle avec une femme, ce n'est pas d'ouvri, comme on dit en français, directement sur le sujet, c'est qu'il s'agit d'autre chose. C'est qu'il s'agit d'un flirt par la parole. Vous savez, comme éducateur, j'ai énormément d'expérience de groupes d'études sur Rashi. Est-ce qu'on étudie Rashi ou est-ce qu'on se compte fleurette? Quand il y a des hommes et des femmes ensemble, enfin des travaux pratiques, on prépare le cours de Rashi. Des fois, ça finit par un mariage grâce à Rashi. Okay. Mais on ne triche pas avec la vérité. Est-ce que c'est clair celui-là? Okay. Surtout avec sa propre femme, si une conversation sur un sujet dure, elle finira dans tous les cas par avoir raison. T'as pas intérêt. Ça, c'est la première. C'est clair. Oui, il faut comprendre le sens qu'il y a ici dans Sikha. Sikha, c'est pas forcément Sikha Betela. C'est pas forcément une conversation en vaine. C'est une conversation, babillage, comme on veut dire. Mais si ça, c'est le ribouille de Altarbé, vous avez compris en hébreu. Hein? Et alors, on revient au sujet. Sur ce que vient de dire le Tana, et que les pauvres soient les fils de ta maison, ne parle pas de ça avec ta femme, parce qu'elle sera comptée à la raison. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu vas lui amener un pauvre, et tu vas te conduire avec lui comme si c'était un de ses fils, de tes fils, elle va protéger ses fils à elle. Et elle a raison, la femme doit protéger son foyer. Et voilà que le mari, qui lui a obligation de l'hospitalité, va avoir des problèmes avec sa femme à cause de ça. Alors ne discute pas là-dessus. Voilà le pshat, c'est clair. Alors ne vous laissez pas raconter des histoires que la Mishnah interdit de parler aux femmes. C'est pas vrai. Et comment on se marie si on ne parle pas aux femmes? Vous avez compris ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Bon. Bon, il y a des gens qui ont des obsessions, et puis ça se traduit comme ça. Ah, si tu es une femme, je te parle pas. Non, c'est très sérieux. Ne faites pas dire au texte qu'il n'a pas voulu dire. Parce que j'entends tellement souvent. J'ai cherché le mot, c'est misogynie. Hein? Qu'on parle de la misogynie rabbinique, c'est pas vrai. Les rabbins sont mariés. Comment vous voulez qu'ils se marient s'ils ne parlent pas de leur femme? Est-ce que c'est clair? Bon. Ouais. On a adopté des mœurs d'autres sensibilités religieuses qui ne sont pas la sensibilité traditionnelle juive. Alors vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'honneur de quelqu'un, c'est dans sa manière de vouloir, et c'est ça qu'on appelle dans l'hébreu biblique le nom de quelqu'un. Bon, tout ça, on ne peut pas le savoir si on ne sait pas en hébreu, parce que c'est dans tout autre registre de signification. Et alors, j'en arrive à mon premier sujet, c'est qu'il y a une différence entre l'individu et la personne. Mais l'espèce humaine est une espèce particulière parmi les êtres vivants, en particulier, il y a d'autres critères, en particulier par le fait que chaque individu est destiné et donné à être une personne. Alors, en fait, il y a très peu de personnes chez les hommes, il y a beaucoup d'individus. Hein. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, même en français, ce mot de l'individu a pris un sens un peu négatif. On parle d'un individu, c'est négatif. Chez les animaux, il y a aussi une distinction des individus entre eux. Mais ça ne dépasse pas le seuil de l'individualité. Quand quelqu'un a un animal familier qu'il aime, il sait le reconnaître. Ça n'a rien à voir avec un autre de la même espèce, fut-il sosie. Hein ? L'individu a sa caractéristique, même chez les animaux. Seulement chez l'homme, c'est un tout autre niveau. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Chaque individu devrait être une espèce. Est-ce que c'est clair ? C'est dans le langage traditionnel, ça ne veut pas dire qu'on en est capable. Hein ? Je compléterai un peu ça, mais dans le langage traditionnel, on dit que chaque espèce est une nefesh haya. L'espèce entière est une nefesh haya. C'est une manière d'être vivant, nefesh haya. Et l'espèce a une neshama, qui est une très grande neshama d'ailleurs, qu'on appelle dans le texte de la prière les hayot hakodesh. Je ne rentre pas dans les détails, simplement pour ceux qui sont familiers à cela. Les hayot hakodesh, la manière d'être le tigre, la manière d'être n'importe quel animal, eh bien, c'est des réalités. Dans leur racine, à l'échelle de la neshama collective, d'une valeur exceptionnelle que l'homme ne sait pas comprendre. Ce sont des présences créées par Dieu, et puis, mais c'est chayot hakodesh, c'est à l'échelle collective de l'espèce. Est-ce que c'est clair ? En bas, dans le monde de la réalité, les individus sont pratiquement interchangeables. Ce qui n'est pas vrai. Je dis, mais par rapport à l'homme, il y a une grande différence. Surtout du point de vue moral. Dès qu'on considère les hommes comme des individus, l'humanité des hommes est en question. C'est le grand drame des civilisations qui arrivent à une multiplication des individus qui masque la valeur des personnes. Malheureusement, je crois que la civilisation occidentale a donné le modèle à l'humanité contemporaine d'une multiplication par le nombre qui finalement annule la dignité de chaque personne qui est géniale pour elle-même. C'est la notion de masse. Et vous voyez, tous ces partis politiques qui ont donné au mot de les masses humaines un sens positif sont dangereuses. Tous ces partis totalitaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, qui parlent soi-disant de démocratie, sont en réalité des dictatures de la masse, qui ne tiennent leur pouvoir que de la foule et pas du peuple. De la foule, pas du peuple. Quelle est la différence ? Le peuple, c'est un ensemble de personnes. La foule, c'est un ensemble d'individus. La foule fonctionne par les sentiments, par les instincts. Le peuple, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ? Alors, je crois que mon expérience de cela est un petit peu livresque. Je ne suis pas du tout porté ni versé dans les réalités politiques. J'ai quand même étudié ça un peu dans mes études. J'ai beaucoup étudié Montesquieu, qui a beaucoup parlé de cela, et je crois que le seul exemple d'une véritable démocratie, c'est par exemple dans un pays comme la Suisse. Parce qu'une véritable démocratie ne peut fonctionner que quand les hommes se connaissent, quand les personnes sont des personnes, pas quand c'est anonyme. Et alors vous avez en Suisse un régime de représentation par canton, qui fait souvent appel au référendum d'ailleurs, et qui est une véritable démocratie parce que c'est petit. Mais qui peut admettre que la Russie a été jamais une démocratie ? D'ailleurs, regardez la précaution qu'ils ont prise d'appeler ça une démocratie populaire. C'est les masses. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qui s'est passé à la Istadrout récemment, c'est une parenthèse. C'est peut-être une réclamation qu'on considère les syndiqués comme des personnes et pas comme des individus. Et si l'ancienne équipe a perdu le pouvoir, c'est à cause de ça. Parce qu'elle manipulait les réalités syndicales comme si c'était des numéros et pas des personnes. Alors, je ne sais pas si la nouvelle équipe fera mieux, c'est un problème politique, mais il est fort possible que c'est ça qu'elle réclame, qu'on s'adresse aux citoyens comme des citoyens et pas comme des numéros dans un fichier. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de doute que ces dernières années, la liste à droite avait transformé le pays en dictature socialiste. Ça continue d'ailleurs. Mais socialiste dans le mauvais sens, quoi. Dans le sens des masses, dans le sens des... Au début, c'était pas ça. Je me rappelle du temps, début de la liste à droite, ou de la Jean-Jules d'ailleurs, l'état héroïque, où vraiment une personne c'est une personne. Mais ça s'est fonctionnalisé, ça c'est manganon, comme on dit en hébreu, et puis c'était inévitable qu'il y ait un tremblement de terre. Je ne sais pas si le résultat sera positif, mais en tout cas, il me semble que c'est la motivation qui a mené ce changement de... Bon, je ferme la parenthèse. Je crois que c'est très éclairant pour comprendre la différence entre individu et une personne. Est-ce que c'est clair, hein? Et alors que chez les hommes, chaque homme est censé avoir une neshama. Alors que pour les animaux, c'est l'espèce qui a une neshama. Les individus, c'est des nefashot. Mais voilà que les hommes n'en sont pas forcément capables. La grande majorité n'a qu'une étincelle de neshama. Ceux qui ont vraiment eu tout seul une neshama sont très rares. On les appelle pour ça les yéridim. C'est un mot difficile à traduire en français. Aidez. On va essayer de trouver. Comment vous traduirez quand on parle des grands, les yéridim?
Non.
Les yéridim, c'est des gens uniques, exceptionnels. C'est suisse, hein, oui. J'ai pas fait exprès. Je vais vous expliquer. Si c'est un médicament, on ne dit pas de bracha. Mais si c'est suisse, on dit le bracha. Parce que pour éviter le suicide, parce que c'est un juif suisse, c'est un suisse id. En tout cas, pour revenir au problème, les yéchidim, c'est yéchides goula. Il y en a quelques-uns dans un siècle. Il y en a un peut-être dans une génération. Les yéchidim. Ceux qui, à eux tout seuls, sont yéchid, uniques. Et alors cela, on est une neshama kolelette, on est une neshama collective, qui équivaut à la neshama de leur génération tout entière. L'exemple, c'est Moïse, dont la neshama équivaut à la neshama du peuple d'Israël tout entier. Il y a une équivalence entre la neshama de Moïse et tout Israël. Vous avez compris mieux que c'est un yachid. Retenez, pour ceux qui sont au courant du vocabulaire, qu'il y a différents niveaux de la neshama, il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ceux qui arrivent jusqu'à Yechida, on les appelle les Yechidim. Vous avez compris pourquoi ça va avec Yechida. C'est clair que ceux qui connaissent le vocabulaire. Voilà ce qu'il faut comprendre. La consigne de la Torah, c'est Bemispar Shemot. Le nombre des noms. Il faut restituer la dignité de chaque personne. Et nous allons voir, la dracha qu'on va étudier, que... vraiment, la Torah indique cela de manière focale pour Israël. C'est vrai pour l'humanité entière. Mais il y a, dans le reste de l'humanité, il y a aussi des individus qui sont de cet ordre-là, des personnes. Les goyim les appellent, en français, les hommes de bonne volonté. C'est un peu plat pour dire ce que c'est. Ils sont plus que ça, il y en a encore. Vous voyez à quoi je fais allusion ? En dehors d'Israël, vous avez des personnes, je cherche un vocabulaire, je ne voudrais pas que les adjectifs soient minimisants, qui sont des grands hommes, voilà, c'est ça le seul problème. Ce sont des yéchidim, mais des goïm. Tandis qu'en Israël, la Torah parle d'Israël comme si en principe, chaque individu devrait être une personne. D'où la différence de statut devant Dieu. Ce qui fait la grandeur d'Israël, que chaque individu est une personne, en tout cas en puissance, c'est ce qui fait aussi nos difficultés. Parce qu'une société faite de personnes, la coexistence des personnes, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait le kavod hadadi. Comment traduire l'honneur réciproque. Mais entendez-le en hébreu. C'est mutuel, oui. On va faire la mutuelle des gens d'honneur. Ça s'appelle la légion d'honneur. Et alors, ça s'appellerait. Alors, je disais, ça existait dans toutes les communautés, dans toutes les les siècles, dans tous les genres de communautés, le kavod. Ce critère a disparu. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la Knesset. Il y a un manque de kavod épouvantable. C'est grave, ça. Et alors, ils se donnent du kvoda nasi, kvoda, eze kavod. Okay. Mais je crois que la dernière communauté que j'ai connue comme ça, et vraiment, les rescapés de cette communauté l'ont vécu, j'en ai dans ma vie connu personnellement plusieurs. C'est la communauté des Juifs Sfaradim de langue espagnole. Ceux-là, ils ont une... ils appelaient ça l'hem en arabe. Qui c'est, tu connais, tu as compris le mot? Non, non, ça vient d'être étonné. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, chez les Arabes aussi, on voit quand ils ont cette noblesse, et ils disent avec le même mot, d'ailleurs, qui est passé en judéo-arabe, ça existe chez tous les peuples, mais c'est perdu. C'est ce qu'on pourrait appeler le gentilhomme. Et c'est très différent, un gentilhomme français, un gentleman anglais, un hidalgo espagnol, etc., etc. Je ne sais pas chez les autres comment ils s'appellent. Mais, voilà, en Israël, c'est le kavod. Et l'expérience montre que quand on fait kavod à quelqu'un, d'abord ça oblige l'autre à la réciprocité, la vie en société est vivable. Mais alors, ce sur quoi je voulais surtout mettre l'accent aussi dans cette Mishnah, c'est que ça commence dans le couple. Ça commence dans le couple. Dans la famille. Yehi, alors voilà la formule. Yehi, kavod, havelcha, haviv, alecha, keselach. Qu'est-ce que dit la Mishnah ? Elle dit que l'honneur de ton ami te soit aussi précieux à tes yeux que le tien propre. Est-ce que c'est une la palissade ? Non, c'est très important. La havruta de deux haverim n'est possible que si on respecte la volonté de l'autre. Pas dans le sens de acquiescer, condescendre, accepter, obéir. Je cherche un mot en français, mais est-ce que l'idée est passée, okay? Mais vouloir ce que l'autre veut, c'est pas la même chose. Je veux, moi, ce que tu veux, toi. C'est pas, j'accepte, bon, c'est ton tour de décider. Mais les prochaines vacances, c'est moi. Vous voyez, c'est comme ça que les conflits commencent. Est-ce que c'est clair, ce que je veux dire? Donc, il faut récupérer cette notion de l'honneur du kavod. C'est derrière ce que demande la Torah en disant que chacun est un nom et pas un nombre. Alors là, il y a un thème métaphysique très important, je me borne à vous le signaler. Les deux limites de l'être, c'est la quantité et la qualité. Et vous avez toute l'échelle des sciences. Ça commence par les sciences de la quantité pure, qui sont les mathématiques. Et ensuite, vous passez par toutes les sciences où l'être mathématique est l'essentiel. Quelle est la science la plus proche de la mathématique? C'est l'astronomie. Là où les phénomènes obéissent le plus, pas toujours, mais le plus, aux règles mathématiques, c'est en astronomie, etc. Et puis, on passe à l'autre côté de l'échelle, les sciences de la qualité, ça passe par le vivant, la biologie déjà, et puis on arrive à la psychologie, à la sociologie, enfin, et c'est la qualité qui est l'objet de la science. Alors vous voyez, les deux pôles, Mispar et Shem. La racine du mot Mispar, c'est Samer Peresh, ça a la même valeur numérique que Shem. Comptez. Mispar, ça fait combien? Hein? T'es sûr? Non, j'ai pas dit Mispar. La racine, Samer Peresh. Ça fait 340, c'est ça? Oui. Le texte de la Torah, eh bien, c'est à la fois un sipour, un récit, un conte, C-O-N-T-E, on raconte, et en même temps, c'est une page d'intégrale, c'est une page de chiffres. Peu arrivent à lire la Torah comme on lit une page de chiffres. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça coïncide. C'est à la fois un conte et un compte, C-O-M-P-T-E, en français. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un livre qui raconte et il y a un livre qu'il faut déchiffrer. Et vous savez que seuls les kabbalistes savent, sont capables de lire simultanément en mathématiques et en récit. Vous savez ça. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu la foi et qui essayent de la retrouver en mettant les versets dans un ordinateur pour voir comment ça fait. C'est vraiment le signe du manque de foi absolu. C'est-à-dire, c'est parce que l'ordinateur leur a sorti une équation qu'ils commencent à croire. C'est très dangereux. Parce que de l'ordinateur, on peut faire sortir n'importe quelle équation. C'est clair celui-là. Méfiez-vous de ces manipulateurs de comptes à dormir assis. Bien, ils se mettent devant l'ordinateur et ils comptent. Je referme la parenthèse. Alors, si vous voulez, on va prendre les premiers versets. Nous allons faire au moins le premier rachis. Alors, où est-ce que mon livre de... Le voilà. Ben oui, ça marche, votre histoire. Ouais, c'est original. Alors, vous prenez le premier verset. Avec Rachid. Vous avez Rachid et Moshe et Minbar Sinaï. Et Dieu parla à Moïse au désert du Sinaï. Et vous savez, c'est le mot de Bemidbar qui a donné son nom au livre, puis c'est le premier mot important du verset. Beel Moed, dans la tente du rendez-vous, littéralement, c'était le tabernacle. Be'echad la Chodesh Hasheni, le premier jour du deuxième mois. Bashana Hasheni, de la deuxième année. Les Tseta Meret Mitzrayim les morts, de leur sortie du pays d'Égypte pour dire, verset 2. Et après je reviens sur Rashi. Seou et Trosh que l'Azad Bene Israël. Littéralement, Seou et Trosh, ça veut dire élever, lever la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est la manière dont la Torah dit finalement dénombrer. Mais si on ne sait pas ce que ça veut dire dénombrer, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi la Torah emploie cette expression pour dire dénombrer? Je veux dire très rapidement, il y a la nomination dans le dénombrement est à la fois une élévation et en même temps un grand péril. C'est pourquoi le dénombrement va être interdit par la Torah, à moins qu'il y ait des raisons impérieuses. Et le dénombrement se fera toujours, c'est indiqué dans notre texte d'ailleurs, par un substitut. On donne un kofer nefesh, littéralement une expiation de la personne. Et je cherche un autre mot, expiation pour dire kofer nefesh. Et c'est un substitut de la personne qui va être dénombré. On donne la moitié du shekel, chacun, et on dénombre les shekalim. C'est un sujet dans lequel je ne veux pas rentrer en détail, ça nous prendrait trop de temps. On l'utilise dans la paracha de Kittissa, habituellement. Peut-être si on arrive à la paracha de Pinchas. Il y a cette notion de élever la tête. Quand on fait partie d'un groupe, si le groupe est nommé, ce groupe s'appelle Israël, mais tant qu'on n'a pas nommé, dénombré individuellement chacun en tant qu'Israël, chacun est à l'abri d'un anonymat du groupe. Parce que finalement, le groupe rassemble tous, mais est-ce que tous ont déjà le niveau individuel avec l'identité collective? C'est une mise en jugement. Et c'est périlleux. Ça veut dire, est-ce que tu es Israël? Combien y a de membres en Israël? Et on va dire, un tel, mais est-ce qu'un tel, un tel sont vraiment Israël? Il y a deux niveaux. Même s'ils n'ont pas encore le mérite d'avoir le nom Israël, ils sont nés de Jacob, donc ils font partie de cette communauté, et ils ont le temps de devenir Israël, dans le modèle de l'histoire du patriarche Jacob, qui est né Jacob et qui devient Israël. Et alors, si on interpelle quelqu'un, alors qu'il est en cours d'acquisition du nom Israël, est-ce que tu es Israël? On le fait passer en jugement. Et s'il n'est pas encore, c'est grave.